Bonjour et bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, asseoir les grands chefs-d'œuvre littéraires à une table d'auberge, leur remplir la panse, les saouler, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent hors d'usage entre deux godets de vin. Vous écoutez Livre et Châtiment, un nom que les classiques littéraires s'échangent tout bas, avec une pointe de frayeur, en se disant oh, « on n'est pas sorti de l'auberge !» Petit jeu de mots. Pour m'accompagner, la tavernière idéale de Nat, un corset, une jupe bouffante, joliesse bavaroise. Bonjour Constance.
Bonjour Clara.
C'est le meilleur accent que j'ai, bavarois.
Le meilleur. On est à 15 secondes d'émission. Je vous dis pas dans une heure. Avec nous, deux ravissantes serveuses qui ont fait le succès de notre estaminet. L'une brune, qui a longtemps travaillé en cabaret et qui n'aime pas les godets vides. Bonjour Liliane Roudière.
Bonjour Clara.
L'autre blonde, qui slalome parmi les tables, il faut la voir, armée d'un cruchon et d'un plat de ripaille. Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour Clara.
Le classique littéraire que nous allons gaver ce dimanche, vous allez devoir le deviner. À la façon de questions pour un champion, sur les pas de Julien Lepers, trois étoiles du Gîte de France de la sexitude. Oui, on y va. Je suis publié en 1880 par un inconnu qui a été formé par Gustave Flaubert. Je raconte l'histoire d'une prostituée bien en chair qui fuit dans une diligence avec d'autres gens, des bourgeois et deux nonnes, car les terribles Prussiens ont envahi la France. Cette diligence est bloquée par la neige, les passagers ont faim. Heureusement, la prostituée a un énorme pique-nique qu'elle partage. Personne ne buzz, ça fait plaisir.
On cherche.
Ouais. On s'arrête dans une auberge. Dame Ned, les Prussiens sont là. En voyant la prostituée, le chef prussien chavire.
Spons, General Spons. Waren so 500.000. Aber durch unsere sofortige Verstärkung fordern wir 3.000, als wir am Hafen ankommen.
Goethe!
Nein. Corneille.
Bravo, quelle cité générale.
Ce Prussien n'est pas aussi lyrique que Roland Giraud dans Papy fait de la résistance. La preuve, il veut coucher avec la prostituée. Par patriotisme, elle refuse. Alors le Prussien fait du chantage. Tant que la prostituée n'aura pas couché avec lui, il ne laissera pas repartir la diligence. Finalement, sous la pression des passagers, les bourgeois et les deux nonnes, la prostituée s'exécute. Elle monte l'escalier de l'auberge et rejoint le Prussien. Elle se sacrifie. Pourtant, le lendemain, quand ses camarades remontent dans la diligence, ils ignorent volontairement la prostituée. Pire, ils ne lui donnent pas une miette de leur pique-nique que cette fois ils ont pensé à emporter. La dernière scène, terrible, décrit les larmes de la prostituée qui pleure d'humiliation en silence. Toujours personne qui buzz, ça fait vraiment plaisir.
C'est pas loin.
Mon action se déroule donc dans deux lieux clos, la diligence et l'auberge. Dans ces boîtes fermées, ma prostituée fait acte de générosité, partager son repas, acte d'abnégation, coucher avec le Prussien. Mais c'est dans ces lieux aussi qu'elle est outragée, d'abord par le Prussien, ensuite par les passagers qui pourtant lui doivent leur liberté. Je suis...
Le bout de la langue.
Je vais buzzer toute seule. Boule de suivre de Guillaume Masson.
Mais c'est ça, j'adore cette série, c'est super.
Juste au bout de la langue.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
Pour déguster Boule de suif, il y a avec nous Marie-Hélène Lafont. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Clara Dupont-Mono.
Alors, bon, vous méritez un restaurant étoilé plutôt qu'une auberge, je le sais, mais vous voici chez nous. Vous êtes romancière, professeure agrégée de lettres et fin palais de Maupassant. Comment avez-vous rencontré Boule de suif et quel sentiment lui portez-vous ?
J'ai rencontré Maupassant et Boule de Suif, vous n'en serez pas surprise, dans le sillage du bon Gustave.
Flaubert.
C'est Flaubert qui m'a amené à Maupassant. Alors, j'avais dû lire, quand j'étais élève, évidemment, collégienne, j'avais lu, on m'avait fait lire, on nous fait lire, on fait encore lire aujourd'hui, des nouvelles de Maupassant aux élèves. Et j'en avais lu, mais j'avoue, je confesse humblement, n'avoir pas été happée ni forcément marquée par les nouvelles de Maupassant quand j'étais élève. Et je suis incapable de dire si j'ai lu Boule de Suif en quatrième ou en troisième, ce qui est très très probable. Les romans de Maupassant m'ont davantage saisi, notamment Une vie, mais j'étais déjà un peu plus... voilà. Et ensuite, Boule de Suif, j'ai dû l'étudier quand j'étais à la Sorbonne dans les très lointaines années 80 d'un siècle de plus en plus obsolète. J'étais étudiante en lettres classiques à la Sorbonne. On étudiait avec des écrivains non seulement très morts, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais même extrêmement très très morts. Et donc, là, j'ai étudié Boule de Suif.
Et vous voilà. L'avez aimé ou pas tellement?
Elle avait quand même beaucoup de viande.
Oui, mais ça c'est pas. C'est repoussant pour vous?
Disons que c'est une circonstance un peu exténuante. Elle avait quand même beaucoup de viande pour moi. Oui, ah, oui je dois comprends. Dire, hein, dans un premier temps. Ensuite, j'y suis revenue en la considérant, cette nouvelle-là, en arborescence avec d'autres nouvelles de Maupassant. Il y en a 300, hein, écrites en 10 ans.
Oui, c'était un grand adepte des textes courts et
complètement
et virtuose des textes courts.
Inouï, hein. 300 nouvelles en 10 ans. Ça fait 30 nouvelles par an. Ça fait plus de 2 nouvelles par mois.
Ah ben
quand
énorme,
on voit comment ces textes se tiennent, ils ne sont pas tous aussi longs que Boule de Suif, qui est une nouvelle charnue, justement.
Absolument.
Mais c'est extrêmement impressionnant.
Et est-ce que dans toute cette viande, il y a néanmoins un os ou un passage ou une petite partie que vous préférez? Et si oui, est-ce que vous nous la liriez?
Volontiers. En fait, la viande a été consommée. Et toute la nuit, dans l'obscurité du corridor, coururent comme des frémissements, des bruits légers à peine sensibles, pareils à des souffles, des effleurements de pieds nus, d'imperceptibles craquements. Et l'on ne dormit que très tard, assurément, car des filets de lumière glissèrent longtemps sous les portes. Le champagne a de ces effets-là. Il trouble, dit-on, le sommeil. Le lendemain, un clair soleil d'hiver rendait la neige éblouissante. La diligence, attelée enfin, attendait devant la porte.
Donc c'est la scène où Boule de Suif couche avec le Prussien, art de l'ellipse, puisque nous n'en savons rien, nous restons devant la porte et que nous avons juste droit aux raies de lumière qui filtrent sous la porte. C'est l'art de l'ellipse, Marie-Hélène Lafont.
Totalement, totalement. C'est pour ça que j'aime ce texte, justement.
Parce que rien n'est dit.
Ce passage-là, notamment. Parce que rien n'est dit. Ça soupire, ça frémit, on effleure des pieds nus, ou des pieds nus effleurent le sol. On sait qu'au bout de ce couloir se trouvent les toilettes. On le sait, c'est dit de manière très explicite et avec insistance dans les pages qui précèdent. Et d'ailleurs, lorsque les passagers, à bout de force, à l'issue de leur première journée de voyage, entrent dans l'auberge et vont chacun enfin pouvoir se trouver dans une chambre, on repère immédiatement cette pièce-là. Et plusieurs scènes nous montrent la circulation entre les chambres et les toilettes.
Cécile Coulon.
Mais oui, dans Boule de Suif, on sait où sont les toilettes, alors qu'à la maison de la radio, c'est vraiment très compliqué à trouver.
C'est vrai, ça fait une vraie différence entre Boule de Suif et la maison ronde.
Néanmoins, y a-t-il dans la maison ronde des effleurements de pieds nus, d'imperceptibles craquements? Le champagne a-t-il ces effets-là dans la maison ronde?
Nous ne serons jamais. Nous ne serons jamais. En tout cas, quand moi je vous entends parler de Boule de Suif, moi je salive, Marie-Hélène Lafont. La question c'est, est-ce que je suis la seule? Cécile Coulon, qu'avez-vous pensé de Boule de Suif?
Boule de Suif, moi je l'ai découvert et découverte quand j'étais jeune et jolie. Donc en cinquième, on avait travaillé
le week-end dernier alors.
je pense que j'étais plutôt horrifiée par la fin de la nouvelle que appâtée, c'est le cas de le dire, par le passage dans la diligence. Donc c'est plutôt quelque chose de terrible qu'on se dit quand on est gamin, qu'on se dit mon Dieu, c'est vraiment tous des cons et elle est tellement bien. Donc j'ai eu une première découverte qui était assez rapide dans le jugement et assez terrifiante.
Liliane Roudière.
J'ai adoré et j'ai été complètement bouleversée par cette fin et j'étais aux côtés de Boule de Suif et je crois que j'ai pleuré.
Oh, oui. Bel aveu. Oui, 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 oui. Et vous, Constance, vous n'avez pas de larmes, quoi. Il y en a plus.
Si, alors moi j'étais étonnée parce que pendant des années, je prononçais Boule de Suif, donc je pensais que c'était un livre sur le ramonage. Et finalement, un peu.
Oh non.
J'ai beaucoup aimé.
Ah bah ça fait plaisir.
Et vous, Clara?
Alors moi j'adore ce texte parce qu'en fait tout est renversé. Les bourgeois qu'on imaginait éduqués, ils se révèlent bestiaux. Et la prostituée qu'on imaginait bestiale se révèle éduquée. Donc la morale de Boule de Suif est à la littérature ce que la tarte tatin est à la pâtisserie, c'est-à-dire renversée.
Oh.
Eh bien oui. Alors en parlant de ce qui est bon, je me tourne vers la Bocuse de l'humour. Son truc à elle, bon, bah, c'est Constance, la Bocuse de l'humour, on l'aura compris. Son truc à elle, c'est la première bouchée. Autrement dit, la première phrase, qu'elle mastique, qu'elle susote, qu'elle savoure. Voici la première phrase de Boule de Suif, disséquée par Constance.
Youpi !
Non, ce n'est pas la première phrase.
Ah, pardon. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Est-ce que vous connaissez la différence entre un 69 et le brouillard? Eh bien, dans le brouillard, on ne voit pas le trou du cul qui est devant. Voilà. Alors, si cette blague grasse vous a choqué, je vous conseille vivement de vous replonger dans la vie sexuelle de Guy de Maupassant. Et vous constaterez qu'on peut tout à fait porter un nom à particule, écrire des merveilles et être un fou du cul. Si, 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 si. Son premier bateau, vous savez comment il l'a appelé? La feuille de rose, Guitou. Parce que c'était poétique? Oui, mais aussi parce que ça faisait référence à l'anulingus. Mais non, mais si! Et Flaubert, son mentor, a même déclaré craindre qu'il ne finissent par s'en aller en sperme. C'est si drôle comme
expression. C'est la formulation exacte. Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Quand je prononce ça, j'ai l'impression de glisser. Oui. Bref. Alors, pourquoi je vous balance comme ça la libido de Guy en pleine figure un dimanche après-midi alors que vous essayez de vous cultiver en famille en essayant d'écouter une émission sur la littérature classique? Et qu'à cause de moi, votre petit dernier vient de vous demander « Papa, c'est quoi un anulingus ?» Enguerrand, c'est un os du bras. Radius cubitus anulingus. Alors, eh bien, tout simplement, je vous dis ça parce que dès cette première phrase de Boule de Suif, le champ lexical de la sexualité est très présent et il est mêlé au champ lexical de la défaite militaire. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Ça ressemble à un lendemain de partie fine bien triste. Ça transpire l'ambiance post-champ de bataille et caquette molle. Ça fleure le lupanar misérable qu'on essaye de fuir discrètement au petit matin. Des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. La ville traversée, c'est le corps de Boule de Suif et ses convictions. Enfin, ses soi-disant convictions. Ben oui, c'est une fille à soldat, hein. Donc ses convictions, ça compte pas vraiment puisque c'est pas totalement une personne. C'est plutôt une sorte de réceptacle à besoin de base pour la bonne société. On en parle de la bonne société? Ce n'était point une troupe, mais des hordes débandées. Tu m'étonnes. T'as vu l'équipe? Non, mais moi, je dirais carrément un tas de pleutres, un échantillon nauséabond de la noblesse, un extrait à gerber de la bourgeoisie, un fragment méprisable de l'église et une miette molle du militantisme. Oh, je les ai méprisés. Je les méprise tous. Je les déteste. Je leur crache à la gueule. Non, mais attends, il lui bouffe son panier dès le départ à la gentille pute potelée. Il l'oblige à coucher avec un chleu et après, il la met au rebut. Il la regarde comme si elle avait pété dans la calèche tout le trajet. Et du retour. Et pour finir, il lui bouffe sous la gueule et lui offre même pas une croûte de Babybel. Mais allez bien vous faire cuire le cul, la bonne société, c'est vous la pute. Non mais attends, c'est moi vrai. Je la trouve belle, je la trouve magnifique, notre héroïne, elle est digne et les larmes qu'elle verse à la fin, c'est tout ce qui reste d'humanité dans cette calèche. J'ai eu tellement envie de lui préparer un petit sandwich pour son voyage du retour à notre belle Boule de Suif que j'en ai glissé un jambon beurre entre deux pages. Ben le faites pas, ça tâche le bouquin.
Mais vous avez ressenti la même chose que moi. Et en effet, Constance, elle parlait du renversement. Et il y a autre chose qui me frappe quand, Constance, vous avez lu la première phrase, c'est combien est-ce que Maupassant écrit en images? C'est extrêmement cinématographique, Marie-Hélène Lafont.
Maupassant, il met de la chair partout. C'est-à-dire qu'il incarne, on voit. C'est ça sa grande affaire quand même. C'est de faire en sorte que nous voyons, que nous y soyons. Donc nous sommes dans la débâcle, nous sommes dans les troupes débandées et la langue va se retourner complètement lorsque le Prussien va s'incarner. Hein. Un officier allemand, un grand jeune homme excessivement mince et blond, serré dans son uniforme comme une fille en son corset et portant sur le côté, sa casquette plate et cirée qui le faisait ressembler au chasseur d'un hôtel anglais. Et sa moustache en elle-même, hein, est une moustache à la Dali, comme ça, qui s'amincit en un fil, fil coupant comme le sabre, et fil tendu. Voilà. La tension, la pendaison, elle est chez lui.
On a basculé dans le roidissement, comme on disait au 19e siècle.
Absolument, le magnifique roidissement que vous avez traqué dans Thérèse Raquin la semaine dernière, si je ne m'abuse.
Boule de Suif et les hommes, c'est une histoire complexe. Elle a beau être prostituée, elle ne se donne pas comme ça. Au tout venant, elle a son honneur. D'ailleurs, dans la diligence, il y a deux bonnes sœurs qui sont très en dessous de la droiture de Boule de Suif. Vendre son corps tout en gardant son intégrité. Un peu l'histoire de ma vie. Mais surtout, est-ce que les sites de rencontres aujourd'hui permettraient cette nuance? Pas sûr. Alors Cécile Coulon, qu'est-ce que ça donnerait si Boule de Suif devait rédiger une annonce Tinder?
Eh bien, déjà, dans la littérature classique, pour que les hommes rencontrent des femmes, avant l'invention du téléphone, du Minitel, et sans l'autorisation des parents de la jeune fille, il faut être au bon endroit, au bon moment. Donc, soit à l'église, le dimanche, pour apercevoir une cheville féminine pendant l'Ave Maria, soit au bal du relais château du coin pour passer la main sur un corset qui remonte le nombril au niveau du menton, ou alors en voyage. Diligence intérieure cuir, puissance 4 chevaux, calèche de velours cousu, puissance 2 chevaux, ou alors dans un compartiment de train. À ce propos, pour celles et ceux intéressés par une aventure du rail façon 19e siècle, l'Intercité Clermont-Paris vous accueille en gare de Bercy 5 fois par jour. Vous êtes sûr de partir, mais pas sûr d'arriver.
Ça sent le vécu.
Oui, je confirme. Bref, tout ce militantisme ferroviaire pour dire qu'à l'époque, ce n'est pas si simple de rencontrer des hommes et des femmes. Heureusement, aujourd'hui, il y a les sites de rencontres. Si Elisabeth Rousset, surnom Boule de Suif de Rouen, s'inscrivait sur Tinder, ce serait la foire aux photos de grands chauves à col roulé. Le clic effréné, tendinite du pouce et du poignet, l'arrivée de la patronne de l'hôtel du cul tourné. Pourquoi? Parce qu'Elisabeth, prostituée, dans le texte, est bonne, dans tous les sens du terme. Oui, elle a faim et elle donne faim. Son corps déborde. Ses doigts ressemblent, je cite, à des chapelets de saucisses. Sa tête à une grosse pomme. Elle se promène avec un pâté aux truffes partout où elle va. Ce qui change un peu, ce qui change un peu du mascara et du dernier iPhone. Vous visualisez très bien la photo de profil, la figure bien rouge, à côté d'un pâté pomme terre et d'un poulet en gelée. Boule de Suif détrône largement tous les candidats de Top Chef et toutes les candidates des amours. Il y a tellement à manger et à boire dans ce livre. T'as terminé la lecture, t'as pris 3 kilos, t'es ivre, t'as envie de faire la sieste. Moi, ça me rappelle mes dimanches matins au bistrot du village avec le pain au chocolat, au fromage râpé, au cochon rôti, trempé dans la suze au petit déjeuner. D'ailleurs, quand on parle de nourriture, on parle aussi d'un des passages les plus célèbres du livre, la description physique de la jeune femme. Saucisse, pomme, viande, tout le monde dans ce bouquin à l'écrou, autant pour ce qui se trouve dans le panier d'Elisabeth que dans son corsage. Alors imaginez franchement sur les réseaux, face à la palanquée de filles rêches, farcies de protéines, éclatées à la salle de sport, Boule de Suif de Rouen, sauvez-nous du massacre maigre, sauvez-nous des fitness addicts, sauvez-nous du ventre plat comme la Belgique, des pommettes creuses comme mon compte en banque, et sortez les poulardes, la maillot, le vin rouge. Biographie rapide de Boule de Suif de Rouen sur Tinder, la nouvelle inscrite. J'aime la France, la terrine et les hommes bien élevés. Bien sûr, Cordonnier 75 dans son coin enverrait un cœur, suivi d'une pêche, suivi d'une aubergine. Et personne ne saurait, en ces lieux virtuels où tout doit donner envie jusqu'au dégoût, qu'Elisabeth fut violée pour permettre à ses compagnons, complices du viol, de reprendre la route. Compagnons qui d'ailleurs n'en valaient pas vraiment la peine. Avec la très grande joie, la très grande colère et les très grands sanglots de cette prostituée Elisabeth Rousset, il y a de quoi être fier pour une fois d'être un fils de pute.
Merci Cécile Coulon. Marie-Hélène Lafont, c'est vrai qu'entre bouche et couche, il n'y a qu'une lettre de différence.
En effet, et en l'occurrence, ce que vous venez de souligner, Cécile Coulon, sur ce que j'ai appelé moi la viande, hein, et je suis désolée de dissonner, mais j'ai marqué mon peu d'appétence pour la viande. Il y a quelqu'un qui s'y connaissait particulièrement bien dans ce domaine, à savoir Gustave Flaubert, qui a dit des choses très très précises à Maupassant. Vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, donc Maupassant a fait ses classes d'écrivain sous la férule du bon Gustave, qui était un ami de sa mère. Donc, Gustave Flaubert apprend le métier à Guy de Maupassant. Lui met le pied à l'étrier, vraiment. Ça dure à peu près 7 ans, en effet, hein, de 1873 à 1880. Et 1880, c'est la publication de Boule de Suif. Donc c'est vraiment là que la gloire littéraire de Maupassant va commencer. Boule de Suif aura un succès énorme, publié en recueil collectif dans les soirées de Médan, avec, s'il vous plaît, comme co-auteurs, Zola et Huysmans. Et dans ce recueil des soirées de Médan, il y a un enjeu qui est un enjeu autour du patriotisme. C'est un texte politique aussi, Boule de Suif. C'est un texte de mangeaille, c'est un texte très chargé, très cru, très viandard, mais c'est aussi un texte politique, évidemment, puisqu'il y est question de l'amour de la patrie. Et donc, Flaubert lit le texte, il est complètement emballé, alors qu'il se prive pas du tout de ramasser Maupassant par moment en lui réécrivant complètement un certain nombre de ses poèmes, parce que Maupassant, avant de publier des nouvelles, a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il a sué son maillot sur des poèmes, et toute sa vie, il a voulu publier du théâtre. Et donc, Flaubert lui fait simplement quelques remarques de pion, c'est lui qui le dit. Donc il lui demande de supprimer le mot téton, donc en effet, on a bien entendu, il n'y est plus. Et il lui dit aussi, elle est charmante votre fille. Si vous pouviez atténuer son ventre au commencement, vous me feriez plaisir. Atténuer son ventre, donc aplatir un peu, etc. Aller peut-être du côté des maigres et des protéinés. En plus, si vous faites attention, dans le texte, vous avez, quand on décrit tout le contenu du panier mirifique que Boule de Suif, en effet, avec un geste très très généreux, va partager, l'énumération des denrées se termine par deux bocaux de cornichons
vinaigrés,
et Maupassant dit que, comme toutes les femmes, elle aimait les crudités.
Like a Virgin de Madonna.
France Inter. Livre et châtiment.
Je reviens en arrière, à propos de Boule de Suif. Enfin, les soirées de Médan, c'était une espèce de championnat, puisqu'il y avait l'écrivain le plus connu de l'époque, qui était Zola, et puis d'autres très à la mode, Huysmans, Céard, etc. Et ils ont décidé de faire une œuvre commune, mais de toute façon, ils se surveillaient les uns les autres. Et chacun pensait que c'est lui qui serait le meilleur. Je suis sûr que Zola pensait que c'est lui qui serait le meilleur. Et quand Maupassant a terminé la lecture de Boule de Suif, il y a eu un éclat d'applaudissements de tous les autres. C'était ce qu'il y avait de meilleur. Et de meilleur, notamment par l'écriture.
Valéry Giscard d'Estaing, en 1979, vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui vous sert les classiques littéraires sur un plateau comme dans une bonne auberge normande. Ce dimanche, nous faisons gratiner Boule de Suif de Guy de Maupassant, l'histoire d'une prostituée livrée sans défense au vorace appétit prussien. Pour m'accompagner, j'ai Constance. Et Constance, qui est avec nous ?
Est ist schwer licht niemand kann vorstellen wie diese Lofteising
Leute oui
ohne Gnade.
Ohne Gnade. Alors Constance parle prussien, enfin du moins elle essaye, elle est un petit peu perdue. Alors Constance, wie ist mit uns heute?
Wir sind mit Liliane Roudière, ja. Cécile Coulon und Marie-Hélène Lafont.
Danke sehr, Fräulein Constance. Et puisque vous avez le micro, dites-nous un peu, si les livres avaient une bande-annonce, comme les films, quelle serait la bande-annonce de Boule de Suif ?
Embarqués dans une fuite en calèche en plein hiver à travers la lande normande, 7 passagers fuyant l'ennemi découvrent que la 8e passagère est une gourgandine.
Jean Ferdinand, mon ami, c'est la dernière fois que vous me faites voyager en face d'une grosse pute.
Bonjour la compagnie, moi c'est Boule de Suif. Je suis effectivement une travailleuse du sexe, mais j'ai aussi un panier bien fourré, si ça intéresse quelqu'un. J'ai cru entendre des bidons gargouiller. Dis donc, elle est pas un peu branlante, cette calèche.
Boule de Suif, un huis clos naturaliste, au sème insoutenable.
Et encore un que les boches n'auront pas. Il reste du pâté.
Boule de Suif, une aventure pleine de suspense et de rebondissements rebondissants inattendus.
Halte schnell, Achtung bicyclette! Vous te fais vous occuper de mon gros pretzel si vous voulez repartir? J'exige te chouer avec les boules de Suif.
Plutôt me faire tondre! J'ai couché avec toute la Normandie, mais pas un teuton de franchir à ma barrière de froufrou. Range ton casque à pointe, mon chéri, je suis en RTT.
Non mais on ne va tout de même pas dormir dans cet hôtel Formule 1 indéfiniment, Jean-Ferdinand, dites quelque chose.
Mon enfant, acceptez de mettre ce petit Jésus dans votre crèche. Au nom de l'Église Jésus-Christ, amen.
Bon bah voilà, c'est fait, on peut repartir. Avec tout ça, j'ai pas eu le temps de passer chez Subway. Quelqu'un peut me filer un petit casse-croûte?
La saucisse de Francfort ne vous a pas suffi?
Mange ta main, puis garde l'autre pour demain, catin.
Boule de Suif, une plongée en terre inconnue qui prouve que les putes, c'est pas toujours elles, les putes.
Merci Constance. Alors, Marie-Hélène Lafont, un petit Alka-Seltzer peut-être pour oui. Digérer ce que vient de faire Constance.
Il faut se reprendre, hein. Ça va pas de soi.
Non, ça va pas de soi.
Sans être systématiquement rabat-joie, ou rabat-joy, vous appelez ça comme vous voulez, je dirais que votre suspense là, il va mollir quand même, hein. Il va mollir parce que forcément, d'accord, elle se tient au-dessus de la mêlée, mais dans cette boîte, vous avez dit tout à l'heure, hein, cette boîte fermée, hein, dans cette diligence qui circule, il s'en passe dans les diligences dans la littérature du 19e siècle, hein. Pensez à Emma Bovary avec son Léon à Rouen. Hein. Dans cette diligence, on a donc la prostituée au grand cœur qui tient le haut du pavé, et vous avez la lie de l'humanité rance, quoi. Le vieux beurre normand qui a mal tourné, hein, qui tapisse le fond de la diligence.
Non. attention, vous êtes à deux doigts de devenir co-auteur de Constance. On n'est pas loin.
Donc, pour moi, vous voyez, j'ai du mal à être ému par ce texte, parce que d'une certaine façon, il m'enrage trop. Voilà. Il en fait trop. Elle est trop. Elle a trop de tout. Hein. Elle a trop de pâté, elle a trop de tétons, même si Flaubert les a fait supprimer. Elle a trop de vertu. Elle sue la vertu.
Elle sue la vertu, c'est vrai. Alors, vous êtes professeure, Marie-Hélène Lafont, oui. Hein, donc vous êtes quand même un peu habituée à ce qu'on vous pose des questions.
Oui.
Certaines questions parfois font des tâches. Mais c'est pour ça qu'on n'ose pas les poser. Sauf ici, avec Liliane Roudière, c'est la question qui tâche de Liliane Roudière.
Alors moi, une question me turlupine, Marie-Hélène Lafont, et je crois qu'elle turlupine Constance aussi, d'après ce que je viens d'entendre. Guy de Maupassant était sexuellement hyperactif.
Et très transmissible.
Ah ben voilà, vous me coupez l'arbre sous le pied. Il se vantait de pouvoir atteindre 20 étreintes en une seule nuit, et paraît-il... Il faisait constater ça par huissier. Bon. Ma question est, pourquoi a-t-il choisi ce portrait de prostituée ? Est-ce par amour ? Par gratitude ?
Je crois que c'est pour dynamiter l'ordre bourgeois. Vraiment. Parce que, vous avez tout à fait raison, hein, Guy de Maupassant est un forcené du sexe. réputé comme tel et qui, de surcroît, savait se mettre en scène. Donc, il est probable qu'il en rajoutait sur ses exploits. Hein. Ça, c'est quand même vieux comme le monde. Hein. Donc, je pense qu'il avait probablement du talent pour ça aussi, c'est-à-dire pour en rajouter. Mais il était quand même forcené. Il était forcené de l'aviron. Il était, voilà,
le canotage.
Il ramait et canotait comme un fou. Mmh. Et d'ailleurs, aimait faire rouler ses biscottos, avait une sorte d'ivresse de lui-même, de son jeune corps glorieux. Il a bien fait parce que ça n'a pas duré longtemps. Hein. Il est mort jeune et en très mauvais état. Hein. Et il n'est pas resté en bon état très très longtemps. Déjà à 30 ans, il a de sérieux ennuis hein, qui lui viennent hein, de la syphilis.
Voilà, hein. Qu'il contracte à 27 ans.
Voilà, alors il la contracte et de surcroît, il y avait un terrain familial du point de vue là de la maladie mentale qui était extrêmement glissant. Donc il avait une hérédité très très lourde, Guy de Maupassant. Hein. Donc l'ivresse de lui-même, de son corps, y compris dans la sexualité, il n'en jouira pas longtemps. Et donc il n'en perd pas une miette. Hein. Et il pratique beaucoup les prostituées.
Alors, est-ce qu'il leur rend hommage ou est-ce que c'est une sorte de partage de douleur de lui qui souffre de la syphilis, d'aller voir cette femme-là, vous voyez comment ?
Alors, moi je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très politique là-dedans. Encore une fois, en renversement, on retourne. Hein. On retourne l'ordre bourgeois, c'est-à-dire que ceux qui sont censés occuper la bonne place dans la diligence et dans la vie se comportent comme des cochons. Et celles qui tire tout ce monde-là vers le haut, c'est celle qui, en principe, est censée rouler sur le trottoir. Donc, il y a vraiment un renversement. Et évidemment, il peut y avoir tout à fait chez lui une sorte de gratitude, au fond, envers les travailleuses du sexe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, avec lesquelles il a quand même beaucoup fourragé. Et au fond, c'était probablement un homme éperdu de jouissance. Tout était bon à prendre. Ça sortissait probablement chez lui aussi parfois d'un certain mépris. Hein. Et je pense que dans ce texte-là, il est plutôt sur le versant, si vous voulez, hommage en effet. Hommage rendu à cette femme de mauvaise vie et qui, évidemment, remporte la mise du texte. La mise textuelle, la mise sexuelle, c'est elle qui tire son épingle du jeu, même si c'est elle qui est foulée aux pieds, humiliée et en larmes à la fin du texte.
Quand vous en parlez, c'est presque aussi beau que le texte lui-même, Marie-Hélène Lafont. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on l'a dit, la nourriture, elle est omniprésente dans Boule de Suif. C'est presque un texte en forme de menu. On démarre avec le poulet engelé, terrine, morceaux de langue fumée, ça c'est dans la diligence, festin et bouteille de vin mousseux à l'auberge, pendant que Boule de Suif passe à la casserole avec le Prussien, et puis rebelote, pâté de lièvre, saucisson à l'ail, à nouveau dans la diligence. Donc le menu, on l'a. Bon, mais le bulletin météo, on l'a pas. Ça, c'était une transition qui n'avait aucun sens, mais qui colle. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, Cécile Coulon, qui colle avec la chronique de Cécile Coulon, le bulletin météo de Boule de Suif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est l'heure de retrouver la météo des livres. Nous allons aujourd'hui en Normandie, où, selon l'adage, il ne fait pas mauvais, il fait beau plusieurs fois par jour. Merci d'arrêter avec cette phrase. Il fait surtout un temps à boire du foin avec de l'eau chaude, en regardant les replays de la Maison France 5, émission où des gens qui vous ressemblent, qui nous ressemblent, avec trois fois rien, beaucoup d'ingéniosité, de curiosité et surtout 3 millions d'euros, retapent des granges en granges de luxe. Nous sommes en Normandie, le soleil va se lever à 5 heures du matin, mais va très vite se recoucher, car la gelée aura déjà durci les terres, les routes seront glissantes, n'oubliez pas la ceinture de sécurité pour vos canassons. En début de matinée, de gros nuages noirs venant du nord apporteront la neige qui tombera sans interruption pendant toute la soirée et toute la nuit. Pour nos auditeurs qui se trouvent sur la route, un rideau de flocons miroite sans cesse en descendant sur la terre. Les passagers de la diligence numéro 10 à destination du Havre sont priés de se serrer les uns contre les autres pour échapper au froid et ne point grelotter dans leur sommeil. Bison Futé annonce une journée noire sur les routes dans le sens des départs. L'arrivée des Prussiens sur Rouen rend difficile l'accès au centre-ville. Comptez 4 jours de trop jusqu'à l'entrée du Havre et bien plus si Boule de Suif refuse de se taper un Prussien. Les températures avoisineront les 2 degrés en extérieur, les 45 degrés en intérieur. C'est muy caliente dans la calèche des Fauderches. Demain, nous fêterons la Saint-Pas-de-Bol. N'oubliez pas votre petite laine pour la suite du voyage.
Merci Cécile Coulon. Marie-Hélène Lafont, Cécile Coulon l'évoquait, donc il y a cette diligence. Et dans cette diligence et dans l'auberge d'ailleurs, il y a plusieurs personnages, notamment un, c'est Cornudet. Spécial lui, hein. Quel est son rôle, Marie-Hélène Lafont?
Alors Cornudet, moi je dirais que c'est un voyeur. D'abord, il est concupiscent. Hein. C'est lui le premier qui, dès la diligence, après le partage des denrées, tâche de mettre la main au panier, vide désormais, de Boule de Suif. Et elle le renvoie d'une tape. Ensuite, après le premier repas, cette fois-ci pris à l'auberge, il tente de s'introduire dans sa chambre, sous l'œil de l'oiseau qui regarde.
De Monsieur Loiseau.
De Monsieur Loiseau, un autre des passagers de la diligence. Personnage particulièrement pleutre, veule et absolument odieux, doté d'une moitié qui ne l'est pas moins.
Madame Loiseau, elle est affreuse.
Madame Loiseau est grandiose, elle est absolument grandiose. Elle a la nature des orties et une âme de gendarme. Écrit quand même Maupassant qui la soigne. Hein. Il lui fait une spéciale à Madame Loiseau. Hein. Il a une dent contre Madame Loiseau, Guy de Maupassant.
Alors Cornudet.
Et Cornudet, donc, hein, Cornudet, pendant tout le voyage, à l'exception de ses gestes, il a un désir pour la prostituée qui n'est pas seulement le désir d'un homme pour une prostituée, c'est aussi le désir d'un homme pour une femme, je crois, Cornudet. Hein. Eh bien, il était conduit, il se laissait conduire. Et il regarde. Et il n'intervient pas, il n'empêche pas l'infamie, mais il n'y participe pas. Bon, il n'est quand même pas très reluisant, Cornudet. Hein. Top down 'cause she worked hard for it, but blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up and she just was riding. Bust down, baby, ain't tired of this. Run it, run it now. You wanna head out, the flight leaves at noon. Wanna buy Chanel, they just dropped them two bags. They want another, now you're asking for too much. Order what you like, don't have to pay about the parties at midnight. She wants to answer that, feels so bad to feel nice, but she gon' handle that, it comes with a small price. Yeah. Yeah, I give, you take. Been keeping track like I'm a train. Even with drip, I'm feeling drained. It's getting long hair like braids, two sides. Either really rude or too nice. So before it goes left, you better move right. Top down 'cause she worked hard for it, but blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Up and she just was riding. Bust down, baby, ain't tired of this. I give again. Show me the play if it's a game. If there's no point, then what's the aim? It's like you're eating off my name. Again, the price of fame is really costing me. Spend again, nothing in this life comes for free. They say the talk is cheap, furthermore it's free. If I go broke today, will you stay or leave? I felt so hard, so deep, wore my heart upon my sleeve. Every word you say, I just believe, so call me Miss Naive. Top down 'cause she worked hard for it, but blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up and she just was riding. Bust down,
c'était Buzz Down de Georgia Smith.
France Inter, Livre et Châtiment, Clara Dupont-Mono.
J'ai bien aimé Boule de Suif aussi. C'est la première fois de ma vie où pour un film, on m'a demandé de grossir. Généralement, c'est le contraire. J'ai tendance à grossir et j'essaie toujours de maigrir.
Et vous avez grossi de combien pour Boule de Suif ?
Mais j'étais très contente, j'avais maigri un peu, et quand Christian Jacques m'a vu, il m'a dit « Mais ça ne va pas du tout, il faut que vous alliez à l'engrais. »
Elle est belle, mais elle est trop grosse. Trop grosse ? Il est ouf, lui, ou quoi ?
Micheline Prel, en 1953, suivi de La vérité si je mens. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui passe au grill. Boule de Suif de Guy de Maupassant avec un peu de piment de Cayenne, histoire que ça râpe un peu le palais. Au fourneau de l'auberge, il y a Constance, et avec nous Constance...
Es namiza etim tolom, Liliane Roudière, yeah. Cécile Coulon,
da
Marie-Hélène Lafont.
C'était donc du russe, merci Constance.
Ah, nous, c'était du russe.
C'était du russe, absolument.
Oui, mais c'est que j'ai un accent du sud de la Russie.
Ah, ok, d'accord. Ok.
Nous parlons depuis presque une heure de cette exquise et courageuse prostituée, Boule de Suif. Or, personne ne l'a entendue. Et ça, c'est un vrai problème. Il est temps qu'elle prenne la parole. Je vais pousser les portes de l'auberge. Je crois que Boule de Suif est dedans. Bonjour mon petit, vous venez pour l'annonce ?
Oui, serveuse d'auberge, 35 heures par jour, accès libre aux poubelles. J'ai tout lu et je suis d'accord.
Votre nom déjà, Boulette, Boulard, Hulot ?
Boule de suif.
C'est ça, c'est ça. Je vous offre à boire, qu'est-ce que vous prendrez ?
Une décision.
Une ?
Oui, je me tâte encore. Soit je prends ma revanche dans cette auberge, j'attends que les bourgeois et les prussiens soient endormis et je leur enfonce lentement une aiguille de mon corset dans l'orbite, en un seul mot. Soit, rien.
Ah, boule de suif. Ok, 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 je vous remets. On parle de vous dans la région. Bon, faut dire que la Normandie, c'est pas grand, hein.
N'en parlez pas. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec la Normandie. Maupassant, mon papa, Gustave Flaubert, Maurice Leblanc, Vincent Delerme, franchement, j'aurais préféré la Côte d'Azur. Quitte à finir humilié, autant que ce soit bronzé.
Mais non, avec votre peau laiteuse, là. Dites, mon petit, il s'agirait pas de se laisser aller, hein. Parce que c'est formidable ce que vous avez fait là. Sans vous, la diligence, elle repartait pas.
Et sans moi, le slip du Prussien restait sec. Vous savez où elle se passe, la guerre ? Pas seulement en France, avec l'arrivée des Prussiens. Elle se passe dans la diligence, entre les riches et moi, la traînée. Elle se passe dans les culottes, avec les femmes de bourgeois qui se battent contre le désir qu'inspire l'ennemi. Elle se passe dans les têtes qui luttent entre le confort et le devoir. Elle est partout, la guerre. Vous voyez la table là-bas avec les bonnes sœurs ?
Oui.
Je les ai entendues commander une tête de veau sauce gribiche. Allez, dites, je peux uriner dans la cocotte et aussi déféquer dans les dredons du Prussien et recouvrir sa jolie face de pâté en croûte que j'aplatirai bien comme ça. Et dans ses narines, j'y reste de la plage, j'y mettrai un petit peu de Pont-l'Évêque. Ah ouais, il en veut encore le Prussien. Je lui mettrai l'eau à la bouche, il me trouvait appétissante. Eh ben, c'est par la bouffe qu'il va crever.
Non mais, boule de suif, il va se défendre.
Non. Parce que vous aurez brisé ses membres avec une poêle en fonte.
Ok, je vous engage. Boule de suif méritait bien une revanche, Marie-Hélène Lafont. C'est chose faite quand même, on lui a offerte.
Et c'est assez magnifique parce que vous mettez le doigt quand même sur la dimension complètement ravageuse du texte qui dynamite l'ordre social et qui en met plein dans les dents aussi de l'ordre religieux. Et c'est quand même pas rien, hein, en 1870.
Et c'est l'idée que la guerre est partout.
Pardon.
C'est l'idée que la guerre totalement, est partout dans totalement. Ce texte.
Tout à fait, bien entendu. Hein.
Dans les corsages,
oui.
Dans les têtes, mm-hmm. Dans les bas-ventres,
oui.
Dans tout.
Mm-hmm. Tout à fait. Et ce que vous soulignez aussi, et qui est très juste, c'est qu'il y a une concurrence des désirs. Le désir pour le Prussien que Boule de Suif n'a pas, la petite Madame Carré Lamadon, elle l'a, elle, et c'est dit explicitement, à plusieurs reprises, hein, elle prise les officiers. Et celui-là, au fond, manifestement, serait à son goût. Hein. Donc, la lutte des classes est là. Hein.
Alors, dans un texte comme En cuisine, un grand nom n'est rien sans une bonne brigade, sans de bons seconds. Boule de suif fourmille de personnages secondaires qui ont une importance cruciale, comme tout ce qui est secondaire. C'est pourquoi Liliane Roudière nous parle d'un personnage secondaire.
C'est l'officier prussien qui est le personnage secondaire primordial. Si on était au théâtre, on ne le verrait guère sur scène. C'est en coulisses qu'il tire les fils. Maupassant est très malin avec ce personnage. Il le présente beau, blond et mince, tiré à quatre épingles. Le bas-ventre des femmes de vertu frétille. Ah, s'il avait été français, toutes les femmes en raffoleraient, soupire Madame Carré-Lamadon. De plus, l'auteur le décrit courtois, respectueux. Il est le seul à appeler Boule de Suif Mademoiselle Elisabeth Rousset. Il souhaite obtenir ses faveurs. C'est une prostituée. C'est bien normal. Madame Loiseau s'en attendrit. Moi, je trouve qu'il se conduit très bien. Il est peut-être privé depuis longtemps. M'est avis que celle-là a connu le loup, mais qu'elle n'a pas dû hurler bien longtemps. L'officier est présenté comme un homme franc. Il s'exprime honnêtement devant Boule de Suif. Je veux coucher avec vous. Il ne se cache pas derrière son petit doigt, contrairement aux autres hommes qui bavent en secret sur ce corps dodu. Boule de Suif refuse. L'officier ne la force pas. C'est la fine équipe de la diligence qui va lui livrer Boule de Suif à domicile. Deliveroo. Il n'a donné aucun ordre. Si on lit bien cette nouvelle, le mot viol n'apparaît pas. Ce n'est même pas un fait divers. C'est tout juste une carte postale d'un moment M à un instant T. L'encyclopédie de Diderot au XVIIIe siècle définit le viol comme « le crime que commet celui qui use de force et de violence sur la personne d'une fille, femme ou veuve pour la connoître charnellement, malgré la résistance forte et persévérante que celle-ci fait pour s'en défendre ». C'est vrai, ce n'est pas le cas dans ce récit. Mais le droit a évolué. Imaginons que l'histoire se passe aujourd'hui. On dirait de ce roman qu'il dénonce un viol en bande organisée sur une prostituée en temps de guerre. Et la quick, tout le monde en tôle. Où je vous entends tous les personnages hurler à l'innocence. Mais il n'y a pas eu viol, Boule de Suif était consentante. Non, vous lui avez arraché avec les dents et vous êtes tous complices. Non, Madame Loiseau, encore vous. Même si la prostituée s'est tapée tout Rouen, cela ne donne à personne le droit de la violer. Quant à vous, le Prussien, je vous vois sur le banc des accusés sourire ironiquement sous votre moustache. Vous pensez échapper à la sentence? Vous n'avez pas utilisé la force? Ok. Mais vous avez abusé de votre autorité de vainqueur. Et là, paf, c'est le viol de guerre. Et c'est une circonstance aggravante. Car celui-ci est interdit depuis le XVIIe siècle par le code militaire. Il faudra d'ailleurs attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'il soit requalifié en crime de guerre. Chère Boule de Suif, la plus belle personne de ce roman, justice vient de vous être rendue. Tenez, prenez mon grand mouchoir à carreaux violets et séchez vos larmes.
Merci Liliane Roudière.
Je tiens à remercier aussi l'historien Fabrice Virgili, le spécialiste des relations hommes-femmes pendant les guerres, qui m'a aidé.
Super, plaisant sujet d'étude. On embrasse Fabrice. Courage, courage. Marie-Hélène Lafont, Maupassant prend un malin plaisir, elle a raison Liliane, à décrire le Prussien comme quelqu'un de bien mis, de franc. En fait, il est l'inverse positif des bourgeois de la diligence. Comment vous l'expliquez, puisque c'est censé être un texte patriotique?
Mais c'est un texte subversif, profondément, avant d'être patriotique. C'est vraiment un texte du renversement et de la subversion. D'ailleurs, vous avez vous-même, d'emblée, dès le début de cette émission, joué sur le renversement de la tarte tatin. Et le Prussien participe du même renversement des valeurs, des hiérarchies, que tout le reste du texte. C'est de la dynamite, hein, ce texte. Totalement.
Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
La température a grimpé. Quand tu m'as accompagné, soudain j'ai trouvé une idée pour cacher ma timidité.
C'était qu'une simple démonstration. Je t'ai pris à l'essai. Juste une façon de faire diversion avant que ça dégénère.
Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue.
Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai. Histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves.
T'énerves pas.
Chacha de Bonnie Banane.
Livre et châtiment.
Aïe! Vous écoutez Livre et châtiment, l'émission qui farcit les classiques littéraires d'insolence, de cruauté et d'amour. Et notre dinde farcie de ce dimanche, c'est Boule de Suif de Guy de Maupassant. Alors, comme les dindes, Boule de Suif a une fin. Bon, la fin de Boule de Suif.
On n'a pas vu, mais bon.
La dernière phrase, je vous la lis, chers auditeurs. Et Boule de Suif pleurait toujours. Et parfois un sanglot qu'elle n'avait pu retenir passait entre deux couplets dans les ténèbres. Terrible scène d'accablement. Maupassant écrit entre deux couplets parce que pendant qu'elle pleure, un des passagers, Cornudet, chante la Marseillaise. Alors, cela dit, pardon Guy, Mais on peut réécrire cette fin. Je vous propose donc, chers auditeurs, de nous envoyer une autre fin de boule de suif. Et parce qu'un bon plat, à la différence de la vengeance, c'est bien meilleur chaud, vous avez jusqu'à demain 17h. On sait que c'est pas très long, mais pour des raisons logistiques, ce serait épatant avant demain 17h. Ce qui est sûr, c'est que ça doit faire 5 lignes maximum. Et vous nous envoyez cette nouvelle fin à l'adresse livretchatiment@radiofrance.com, au singulier tout attaché en minuscules, et la meilleure fin sera lue la semaine prochaine à l'antenne. La semaine dernière, c'était Thérèse Raquin d'Émile Zola, dont vous avez réécrit la fin. Alors pour rappel, Thérèse Raquin a tué son mari avec l'aide de son amant, elle et lui meurent de remords sous les yeux de Madame Raquin mère et du chat. Bon, merci Émile Zola pour ce scénario en béton. Vous nous avez envoyé quantité de nouvelles fins. On s'est régalé. Il y en avait des longues, des plus courtes, des créatives, des très drôles. Et il a fallu choisir. Ça, désolé, c'est la règle du jeu. Et la meilleure fin, Constance, qui est-ce ?
C'est Philippe Mailly. Je vais lire. Laurent entrebâilla la porte du salon. Une horde de chats s'engouffra dans la pièce. Madame Raquin, qui par miracle avait retrouvé la parole, hurla. « Mon Camille, enfin tu es là! Venge-toi de ces assassins !» Mais les chats, François, avaient déjà sauté à la gorge de Thérèse, déchirant son chemisier et laissant apparaître son sein lacéré et sanguinolent. Laurent, tombé au sol, les yeux crevés, mourait comme une bête à l'abattoir. De sa plaie au cou, giclait le sang du crime.
Alors, comment s'appelle l'heureux lauréat, Constance ?
Philippe Mailly.
Alors, Philippe Mailly, un grand merci. Le son, la musique, etc. Ça,
c'est mon idée.
La patte de Constance. Mais bravo, parce qu'on a craqué sur cette fin mi-sanguinaire, mi-revanche des animaux. On s'y attendait pas à la revanche du chat. Parce qu'en effet, il y a un chat.
Oublié, ouais.
Et franchement, bravo, Philippe.
J'espère que vous avez lu les essais de Montaigne. Montaigne qui disait à peu près ceci. Si haut que l'on soit assis, ce n'est jamais que sur son derrière.
Alors ça sent la fin de banquet, hein, vous venez de l'entendre. Et quoi de mieux qu'un libraire pour clore un festin ? Ce sont eux nos desserts préférés. En partenariat avec la revue Page des libraires, qui est disponible bien sûr dans les librairies, nous demandons chaque semaine à un ou une libraire la question la plus farfelue entendu dans sa boutique. Et cette semaine, nous avons en ligne Élodie Bonafou de la librairie Arcane à Châteauroux, une très vieille enseigne, hein. Elle date de 1828. Bonsoir Élodie.
Bonsoir Clara, bonsoir à tous.
Cette semaine, quelle est la question, ou la scène, hein, ça peut être une scène, la plus étonnante, inattendue dans votre magasin, Élodie ?
Eh ben, la question, c'est, mais où est mon livre?
Alors, qu'on vous a posé, en fait, oui.
Non, j'ai un client qui habite juste à côté de la librairie, qui est assez fantasque, un artiste assez réputé par ailleurs, et qui, quand il a envie d'un livre, mais hésite encore à l'acheter, le cache.
Dans la librairie?
Il le cache dans la librairie.
Ah, d'accord.
À un endroit où personne d'autre ne pourra le trouver.
D'accord. Pour l'acheter après, ou?
Ben, oui, soit pour l'acheter après, soit s'il ne l'achète pas, il le retrouve, il le remet en
mais génial. C'est génial. Et vous l'avez attrapé, quoi. À un moment, vous avez vu qu'il faisait ça?
Ben, on l'a vu, mais c'est surtout qu'un jour, il n'a pas retrouvé son livre. Donc, c'est lui qui a fini par dire, bah alors, il est où? Je le trouve plus. Et on l'a aidé à le chercher, évidemment. On a fini par le retrouver, mais complètement pas à sa place.
Comme les écureuils, en fait. Il avait oublié où il l'avait caché. Vous savez, ils font ça, les écureuils.
Exactement.
Ils font des provisions, ils les cachent et après, ils oublient.
Exactement.
Bah, attendez, moi, je vais faire ça chez Chanel. Oh, ben, il y a eu un sac, tiens. Hop, bah, je sais pas. Je l'ai caché. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, Élodie, hein, pour cette histoire assez fantasque. En tout cas, elle est exquise comme histoire, hein.
Elle est exquise et c'est un homme absolument exquis. Nous, ça nous amuse beaucoup.
On va le faire venir. On va le faire venir ici. Sa place est ici. Merci beaucoup, Élodie. Ce sera le mot de la fin, le digestif de cette émission. Marie-Hélène Lafont, merci d'avoir été avec nous. Vos merveilleux romans sont publiés chez Buchet-Chastel. Merci à Constance, Liliane Roudière et Cécile Coulon. Livre et Châtiment, c'est Stéphanie Texier à la réalisation. Fanny Leroy à la préparation. Vincent Désière à la technique. Bonne semaine. N'oubliez pas de lire avec amour et sans pitié. Je vous dis à dimanche prochain et on vous embrasse.